RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter Mot d'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. L'ordre suivant, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, voici les nouvelles. Tout d'abord, les titres. Le président Joko Widodo souhaite une accélération du projet de loi pénale. L'Indonésie se félicite de la solution de la frontière maritime du Timor oriental. Australie. L'Indonésie est entrée dans le top 10 des destinations touristiques des touristes chinois. Le Parlement iranien apprécie le développement de l'Indonésie. Vice-président, l'Indonésie est prête à venger la guerre commerciale Trump. Le ministre de l'Industrie, l'Indonésie est encore une destination d'investissement. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo espère que la discussion sur le projet de code pénal RUUKUHP pourra être immédiatement adopté sous le règne du président Joko Widodo et du vice-président Yusuf Kalla. Cela a été confirmé par le président lors de la réunion avec l'équipe pour la formulation du projet de code pénal au palais présidentiel à Jakarta mercredi. Eni Nurbaningsih, chef de l'Agence nationale de développement juridique, a expliqué lors de la réunion, le président Joko Widodo espère que l'accélération du projet de code pénal pourra être mise en œuvre plus tôt.
Jadi presiden berharap bahwa kalau bisa di masa sidang ini bisa kita percepat.
Le président espère l'accélération parce que nous avons tous le même souci d'éviter de plus gros problèmes, surtout dans ces années politiques. Le prochain nouveau leader le répétera de zéro. Cela nous évitera d'avoir notre propre droit criminel. C'est le souci du président d'être accéléré. Par ailleurs, Eni Nurbaningsih a indiqué que lors de la réunion, le président Joko Widodo avait également reçu une explication complète concernant les pour et les contre qui circulaient dans la communauté à propos du projet de loi pénale. Certains articles du projet qui déclenchent le pour et le contre parmi les communautés sont ceux qui insultent le président, la peine de mort, les LGBT, ainsi que le crime de corruption. Le gouvernement indonésien se félicite de l'utilisation de la façon pacifique pour résoudre des frontières maritimes entre le Timor oriental et l'Australie. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta a mentionné que cela a été transmis par le gouvernement indonésien relatif à la signature de l'accord entre la République démocratique du Timor-Leste Elo sekali sur la zone maritime de la mer de Timor par la commission de conciliation basée sur le mécanisme de la Convention sur le droit de la mer de 1982 à New York le 6 mars 2018. Bien que l'Indonésie ne soit pas partie au processus de réconciliation, l'Indonésie observe de près le processus de réconciliation et s'efforce à assurer que la conciliation n'affecte pas aux droits maritimes de l'Indonésie en vertu de la Convention sur le droit de la mer ou UNCLOS 1982. Concernant de cela, l'Australie et le Timor-Leste ont déclaré que leur conciliation basée sur l'UNCLOS de 1982 n'avait aucune incidence sur les droits maritimes de l'Indonésie. L'Indonésie est incluse dans le top 10 des destinations des touristes de la Chine tout au long de 2017, comme les données publiées par China Tourism Academy et Trip, en fournisseur de services de tourisme électronique. Sur la base des données, l'Indonésie se classait au 5e rang sous la Thaïlande, le Japon, Singapour et le Vietnam. Bien que l'année dernière l'Indonésie ait été touchée par l'éruption du Mont Agung dans la région de Karangasem à Bali, l'Indonésie a encore dépassé la Malaisie, les Philippines, les États-Unis, la Corée du Sud et les Maldives. Le Parlement iranien a apprécié l'Indonésie comme un exemple d'État islamique qui développe rapidement dans tous les secteurs, non seulement dans la région Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde. Cela a été déclaré par la délégation parlementaire iranienne quand elle a rencontré le vice-président du Conseil des représentants régionaux, RI, Nono Sampono, au Parlement Jakarta jeudi. Nono Sampono a salué la visite de la délégation parlementaire iranienne. Selon lui, l'Indonésie a une relation historique et émotionnelle avec l'Iran. Ils sont des pays avec la majorité de la population musulmane. En tant que pays islamique, l'Indonésie et l'Iran devraient se soutenir mutuellement et prêter attention les uns aux autres. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que le gouvernement indonésien était prêt à riposter si le président américain Donald Trump appliquait une politique de guerre commerciale. Yusuf Kalla, au Collège des sciences de la police PTIK à Jakarta, a déclaré jeudi que si l'Amérique bloquait l'huile de palme brute d'Indonésie ancrée aux États-Unis, l'Indonésie réduit également les importations de soja et de farine en provenance des États-Unis. Yusuf Kalla a affirmé que la politique de guerre commerciale qui commençait à appliquer par le président Trump serait contestée par les pays étrangers. Le président Trump déclenche la guerre commerciale avec les pays étrangers en appliquant le tarif de 25% sur les produits sidérurgiques importés et 10% pour les produits en aluminium. Ceci est fait par Trump pour protéger les produits domestiques des États-Unis. Selon Yusuf Kalla, il est probable que beaucoup d'autres pays répondent dans l'agriculture. Pendant ce temps, la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a rappelé le potentiel d'une guerre commerciale si le gouvernement américain applique les tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto a déclaré que l'Indonésie était toujours un pays de destination d'investissement. Cela est soutenu par le rôle du gouvernement de créer le climat d'affaires favorable et fournir une facilité dans le processus de licence d'entreprise. Sur la base de l'enquête US News, l'Indonésie est considérée comme la deuxième meilleure destination d'investissement dans le monde, battant d'autres pays d'Asie du Sud-Est tels que la Malaisie et Singapour. Erlangga Hartarto a déclaré à Jakarta jeudi que les résultats de l'enquête US News étaient devenus un bon élan pour montrer la confiance aux investisseurs dans le secteur industriel pour être plus expansif. Pour augmenter l'emploi et les exportations du secteur manufacturier, le ministère de l'Industrie encourage la croissance de 10 secteurs industriels à forte intensité de main-d'œuvre et axée sur l'exportation. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, Timor-Leste et l'Australie signent un accord sur la frontière maritime. Après un conflit de 10 ans, le Timor-Leste et l'Australie ont signé un accord sur la frontière maritime au siège de l'ONU à New York aux États-Unis mercredi dernier, 7 mars. Il s'agit d'un accord permanent entre les deux pays après un accord non permanent que le Timor-Leste juge très dommageable. Dans l'accord signé par la ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, et le vice-premier ministre de Timor-Leste pour les affaires de délimitation des frontières, Augusto Cabral, les deux pays ont convenu d'utiliser la convention UNCLOS sur le droit de la mer. Depuis sa séparation d'Indonésie en 2002, le Timor oriental a tenté de négocier ses frontières maritimes avec l'Australie. Bien que le Timor oriental ait été assisté par l'Australie lors du référendum, le Timor-Leste ne veut pas être dicté dans les affaires de la frontière maritime. Depuis plus de 10 ans, depuis 2006, le Timor-Leste s'est battu et a même porté cette question devant le tribunal arbitral international pour obtenir une décision équitable. L'injustice pour le Timor-Leste est due aux frontières non permanentes. Les frontières maritimes des deux États ont été déterminées sur la base du plateau continental australien plus proche du Timor-Leste. Avec la mise en œuvre de l'UNCLOS, les frontières maritimes des deux États sont les médianes de leurs côtes respectives. La signature de cet accord est devenue une victoire pour la diplomatie du Timor oriental et a donné de l'espoir pour le contrôle des sources riches en pétrole et en gaz dans la région de Greater Sunrise. Sur la base de cet accord, Timor-Leste recevra une plus grande part des revenus que l'Australie, dépendant du concept de développement. Si l'extraction de pétrole et de gaz de Greater Sunrise est canalisée vers Timor-Leste, sa part est de 70%. Inversement, s'il est acheminé vers l'Australie pour y être traité, le Timor oriental obtient 80%. L'Australie elle-même était disposée à signer cet accord, soulignant que le Timor oriental avait également droit à son potentiel économique. L'Indonésie, par l'intermédiaire du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a salué les résultats des discussions bilatérales et étudiera les détails de l'accord une fois qu'il sera ouvert. Les efforts déployés par les deux États pour conclure pacifiquement ce traité devraient être respectés, même s'ils avaient auparavant été tendus en portant l'affaire devant le tribunal international d'arbitrage. On espère que le Timor oriental pourra développer son économie à partir des ressources naturelles, alors que l'Australie, qui est disposée à libérer la partie qui a été revendiquée sur la base du plateau continental du pays, mérite également d'être appréciée. On espère que l'Indonésie et d'autres pays ayant des problèmes similaires pourront résoudre pacifiquement leurs différends frontalières comme le Timor-Leste et l'Australie. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 9 mars. Le 9 mars 1989, Abbas Kermani est décédé. Le 9 mars 1989, le docteur Abbas Riadi Kermani, un astronome et mathématicien iranien célèbre, est décédé. Le docteur Abbas Kermani est né en 1908 et après avoir terminé ses études de bachelier, il est allé en France pour étudier les mathématiques et l'astronomie. Enfin, Abbas Kermani a obtenu un doctorat de l'Université Sorbonne, Paris, dans le domaine de l'astronomie. À son retour en Iran, le docteur Abbas Kermani a enseigné à l'Université de Téhéran et a activement mené des recherches et écrit dans le domaine de l'astronomie. Le docteur Abbas Kermani parvient à dresser un calendrier officiel iranien. L'écrit de docteur Abbas Kermani a pour titre « L'introduction à l'astronomie avancée ». Le 9 mars 2011, Discovery a atterri sur Terre pour de bon. La navette spatiale Discovery a finalement fait retour à la Terre mercredi soir 9 mars 2011 à 23h57 temps de l'Indonésie Ouest. L'avion a atterri avec succès au Centre spatial Kennedy en Floride. Ensemble avec Discovery a également atterri 6 astronautes dirigés par Steve Lindsay et 2 spacewalkers, Steve Bowen et Al Drew. Discovery a réussi à battre le record avec 39 missions de vols spatiaux, 148 millions de milles de voyage, 5830 orbites terrestres et 365 jours à l'espace. Après cette dernière mission, Discovery sera entreposée à l'institution Smithsonian. Selon la NASA, il a fallu 3 mois pour prendre 3 moteurs principaux et éliminer les matières dangereuses avant que l'avion ne soit prêt à être mis en musée. Le 9 mars est célébré comme la Journée nationale de la musique. Le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono, par le biais du décret présidentiel numéro 10, l'an 2013, a fixé le 9 mars la Journée nationale de la musique dans le but d'accroître l'appréciation sur la musique nationale. Le décret présidentiel est également publié pour renforcer la confiance et motiver les musiciens indonésiens, ainsi que pour améliorer les réalisations qui sont en mesure d'élever le statut de la musique indonésienne à l'échelle nationale, régionale et internationale. La Journée nationale de la musique commémorée le 9 mars n'est pas une fête nationale. Le décret présidentiel stipule également que la désignation du 9 mars comme Journée nationale de la musique considère que la musique est une expression culturelle universelle et multidimensionnelle qui présente les nobles valeurs de l'humanité et joue un rôle stratégique dans le développement national. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, nous continuons notre émission avec le programme Mon Indonésie, yang pour le titre Le monde admet que l'Indonésie est digne d'investir. L'Indonésie se classe au deuxième rang des pays qui est digne d'être investi en 2018. Selon un sondage du magazine américain hebdomadaire News Weekly, dans une liste des meilleurs pays de 2018, le magazine compile les données de la Banque mondiale. Cette position est une preuve de la reconnaissance que le monde a placé l'Indonésie comme la deuxième meilleure destination d'investissement dans le monde. Avec une population de 261 millions d'habitants, le produit intérieur brut ou PIB total de 932,3 milliards de dollars américains et une croissance économique de 5%, l'Indonésie est juste en dessous des Philippines qui place le premier rang. Cependant, l'Indonésie est meilleure que la Pologne, la Malaisie, Singapour, l'Australie, l'Espagne, la Thaïlande, l'Inde et Oman, au 20e rang qui est placé par le Chili. L'entrée de l'Indonésie dans les rangs des plus grands objectifs d'investissement des pays en ligne avec la réalisation de l'investissement dans l'année dernière qui atteint 692,8 trillions rupiah a dépassé l'objectif précédent de 678,8 trillions rupiah. Tambah Hutapea, le député des affaires de la planification des investissements du Conseil de coordination des investissements ou BKPM, comme cité par Média Indonesia mercredi, a déclaré que les résultats de l'enquête devenaient un capital précieux pour l'Indonésie pour attirer les investisseurs, en particulier ceux des États-Unis. Ainsi, il optimise que la cible de réalisation de l'investissement 2018 de 765 trillions rupiah peut être atteinte en Indonésie. Tambah Hutapea a déclaré que le deuxième rang digne d'investissement est un bon élan pour encourager l'accélération de la réalisation des investissements en Indonésie. Pendant ce temps, le président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Rosan Ruslani, à Jakarta, mardi, a déclaré que cette annonce était une bonne chose qui doit être maintenue. Ne laissez pas la confiance des investisseurs s'éroder parce que le gouvernement est négligé en appliquant la politique en constante évolution. Il mentionne l'une des politiques qui change et ne soutient pas le climat d'investissement et la décision d'utiliser 40% de la main-d'œuvre dans une zone qui devient la destination d'investissement. La deuxième position en tant que pays qui est digne d'être investi cette année est une augmentation significative. L'année dernière, dans la même liste, l'Indonésie s'est classée au deuxième rang et se trouve sous la Malaisie, Singapour, l'Inde et la Thaïlande. Chers auditeurs, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le président Joko Widodo espère que la discussion sur le projet de code pénal RUUKUHP pourra être immédiatement adopté sous le règne du président Joko Widodo et du vice-président Yusuf Kalla. Cela a été confirmé par le président lors de la réunion avec l'équipe pour la formulation du projet de code pénal au palais présidentiel à Jakarta mercredi. Eni Nurbaningsih, chef de l'Agence nationale de développement juridique, a expliqué lors de la réunion, le président Joko Widodo espère que l'accélération du projet de code pénal pourra être mise en œuvre plus tôt.
Jadi presiden berharap bahwa kalau bisa di masa sidang ini bisa kita percepat.
Le président espère l'accélération parce que nous avons tous le même souci d'éviter de plus gros problèmes, surtout dans ces années politiques. Le prochain nouveau leader le répétera de zéro. Cela nous évitera d'avoir notre propre droit criminel. C'est le souci du président d'être accéléré. Par ailleurs, Eni Nurbaningsih a indiqué que lors de la réunion, le président Joko Widodo avait également reçu une explication complète concernant les pour et les contre qui circulaient dans la communauté à propos du projet de loi pénale. Certains articles du projet qui déclenchent le pour et le contre parmi les communautés sont ceux qui insultent le président, la peine de mort, les LGBT, ainsi que le crime de corruption. Le gouvernement indonésien se félicite de l'utilisation de la façon pacifique pour résoudre des frontières maritimes entre le Timor oriental et l'Australie. Le communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta a mentionné que cela a été transmis par le gouvernement indonésien relatif à la signature de l'accord entre la République démocratique du Timor-Leste et l'Australie sur la zone maritime de la mer de Timor par la commission de conciliation basée sur le mécanisme de la Convention sur le droit de la mer de 1982 à New York le 6 mars 2018. Bien que l'Indonésie ne soit pas partie au processus de réconciliation, l'Indonésie observe de près le processus de réconciliation et s'efforce à assurer que la conciliation n'affecte pas aux droits maritimes de l'Indonésie en vertu de la Convention sur le droit de la mer ou UNCLOS 1982. Concernant de cela, l'Australie et le Timor-Leste ont déclaré que leur conciliation basée sur l'UNCLOS de 1982 n'avait aucune incidence sur les droits maritimes de l'Indonésie. L'Indonésie est incluse dans le top 10 des destinations des touristes de la Chine tout au long de 2017, comme les données publiées par China Tourism Academy et Trip, un fournisseur de services de tourisme électronique. Sur la base des données, l'Indonésie se classait au 5e rang sous la Thaïlande, le Japon, Singapour et le Vietnam. Bien que l'année dernière, l'Indonésie ait été touchée par l'éruption du Mont Agung dans la région de Karangasem à Bali, l'Indonésie a encore dépassé la Malaisie, les Philippines, les États-Unis, la Corée Sud et les Maldives. Le Parlement iranien a apprécié l'Indonésie comme un exemple d'État islamique qui développe rapidement dans tous les secteurs, non seulement dans la région Asie-Pacifique, mais aussi dans le monde. Cela a été déclaré par la délégation parlementaire iranienne quand elle a rencontré le vice-président du Conseil des représentants régionaux, RI, Nono Sampono, au Parlement Jakarta jeudi. Nono Sampono a salué la visite de la délégation parlementaire iranienne. Selon lui, l'Indonésie a une relation historique et émotionnelle avec l'Iran. Ils sont des pays avec la majorité de la population musulmane. En tant que pays islamique, l'Indonésie et l'Iran devraient se soutenir mutuellement et prêter attention les uns aux autres. Le vice-président Yusuf Kalla a déclaré que le gouvernement indonésien était prêt à riposter si le président américain Donald Trump appliquait une politique de guerre commerciale. Yusuf Kalla, au Collège des sciences de la police PTIK à Jakarta, a déclaré jeudi que si l'Amérique bloquait l'huile de palme brute d'Indonésie ancrée aux États-Unis, l'Indonésie réduit également les importations de soja et de farine en provenance des États-Unis. Yusuf Kalla a affirmé que la politique de guerre commerciale qui commençait à appliquer par le président Trump serait contestée par les pays étrangers. Le président Trump déclenche la guerre commerciale avec les pays étrangers en appliquant le tarif de 25% sur les produits sidérurgique importé et 10% pour les produits en aluminium. Ceci est fait par Trump pour protéger les produits domestiques des États-Unis. Selon Yusuf Kalla, il est probable que beaucoup d'autres pays répondent dans l'agriculture. Pendant ce temps, la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a rappelé le potentiel d'une guerre commerciale si le gouvernement américain applique les tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto a déclaré que l'Indonésie était toujours un pays de destination d'investissement. Cela est soutenu par le rôle du gouvernement de créer le climat d'affaires favorable et fournir une facilité dans le processus de licence d'entreprise. Sur la base de l'enquête US News, l'Indonésie est considérée comme la deuxième meilleure destination d'investissement dans le monde, battant d'autres pays d'Asie du Sud-Est tels que la Malaisie et Singapour. Erlangga Hartarto a déclaré à Jakarta jeudi que les résultats de l'enquête US News étaient devenus un bon élan pour montrer la confiance aux investisseurs dans le secteur industriel pour être plus expansif. Pour augmenter l'emploi et les exportations du secteur manufacturier, le ministère de l'Industrie encourage la croissance de 10 secteurs industriels à forte intensité de main-d'œuvre et axée sur l'exportation. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant une danse traditionnelle molukoise, Orla Pay. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Moluk, l'une des plus anciennes provinces de l'histoire indonésienne, est située dans l'est de l'Indonésie. Moluk est connue pour ses 1000 îles et possède une riche diversité de ressources sociales et culturelles. Chaque région en Indonésie, de Sabang à Merauke, a différentes cultures allant de la danse aux cérémonies traditionnelles. Ils ont tous des caractéristiques uniques très intéressantes à connaître. Ce soir, nous allons discuter de la danse traditionnelle Orla Pay, originaire de la région de Moluk. Cette danse est une danse de réception des invités d'honneur aux événements de pays ou village à Moluk. La danse décrit généralement la bonne humeur de toute la communauté envers l'arrivée de l'invité d'honneur dans son village et une expression bienvenue. La combinaison des motifs de sol et le mouvement et le rythme de la musique renforce l'expression de la façon dont toute la communauté locale se sent très heureuse de la présence des invités d'honneur dans leur village. Cette danse utilise la propriété gaba-gaba, la branche du sagu comme nourriture typique des habitants de Moluk et dans le dialecte de Moluk est appelée jaga sagu, accompagnée d'un skumang de musique traditionnelle molukoise à savoir tifa, flûte de bambou, ukulélé et guitare. La danse est si harmonieuse, énergique et dynamique, rayonnant l'aura de l'amitié, de la paix et de la convivialité gotong royong. Donc, voir cette danse regarde aussi leurs âmes sincères. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain! We'll be right back.
warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans le programme L'Indonésie en couleur ayant pour le titre Senapas, détection respiratoire à partir de fibres optiques. Actuellement, les appareils de détection respiratoire en Indonésie sont classés comme minimes, même s'il y en a, mais elle est toujours sous la forme d'un système analogique. Le matériau d'électrode utilisé comme capteur est également médiocre dans les champs irradiés comme IRM. La taille de l'outil est également encore grande. Voyant cela, le professeur de l'Institut de technologie de Dinofambre ou ITS Surabaya a fait des capteurs innovants pour détecter diverses respirations avec la fibre optique comme matériau principal. L'outil nommé Senapas ou fibre optique pour le souffle a été créé par Agus Muhammad Hatta, STMSI, PhD, avec le laboratoire de génie photonique du département d'ingénierie de la physique de l'ITS. L'homme qui s'appelle familièrement Hatta a expliqué « La fibre optique est une ligne de transmission d'une sorte de câble fait de verre ou de plastique. Cet outil est très lisse, son diamètre est d'environ 120 micromètres, la taille est plus fine qu'on se veut. Le câble fin peut être utilisé pour transmettre des signaux lumineux d'un endroit à un autre. » Les sources lumineuses utilisées sont généralement des lasers et des diodes électroluminescentes ou LED. La lumière à l'intérieur de la fibre optique ne sortira pas non plus parce que l'indice de réfraction du verre est plus grand que l'indice de réfraction de l'air, si bien que la vitesse de transmission de la fibre optique est donc très élevée. Le président du département de génie physique a expliqué que la fibre optique est choisie comme capteur parce qu'elle est légère, petite et pratique. Sa plateforme permet d'utiliser Senapas n'importe quand et n'importe où. En outre, les propriétés de la fibre optique sont également immunisées contre les champs électromagnétiques. Il est donc en sécurité d'utiliser dans l'environnement de résonance magnétique ou MRI. La fibre optique est placée dans un masque à oxygène connecté à l'écran à cristaux liquides ou LCD. Parce que les fibres optiques sont utilisées comme capteurs, le souffle peut mesurer directement la qualité de la respiration à partir du masque à oxygène porté sur le moniteur d'affichage. Selon Hatta, le dispositif de détection de la respiration ou BRET est très utile, pas seulement pour l'analyse médicale, mais aussi pour l'analyse psychologique ou la résilience des travailleurs dans le monde industriel. Par exemple, dans l'industrie minière, des conditions mineures souterraines peuvent être observées directement avec ces appareils de détection respiratoire, où il détecte également la condition physique de l'athlète ou d'autres cas. Hatta espère que cet outil peut être commercialisé librement, bien que la valeur de vente de cet outil soit assez chère. Ce système de visualisation de données est assez cher, mais pour le masque à oxygène est très bon marché parce que le masque est jetable, jeté directement. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. On se retrouve encore dans la rubrique magazine musical. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons de la province des îles de Riau. Et chers amis, pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, je vous présente une chanson intitulée Segantang Lada, ou en français Un zoo à poivre, chantée par Lala Suages. Voilà la chanson intitulée Segantang Lada, chantée par Lala Suages, pour présenter la province des îles de Riau. Cette chanson possède des paroles simples et mentionne les îles de Riau et sa capitale sur l'île de Bintan. Les îles de Riau sont écrites comme un segantang lada ou un seau à poivre, car il a plus de 2000 îlots comme les grains de poivre. La chanson suivante que nous allons donner vient de la province de Riau, intitulée Lancang Kuning. Lancang Kuning est le nom d'un navire qui a navigué à la nuit quand une tempête a frappé, parce que le voyage se fait dans des conditions sombres et au milieu d'une tempête, le capitaine doit être compétent à contrôler le navire, parce que sinon Lancang Kuning et ses passagers se noieront. Lancang Kuning a un message sur un leader qui doit être en mesure d'exécuter le mandat et la responsabilité qu'il lui est confié. Bon, chers amis, on va écouter d'autres chansons intitulées Lancang Kuning, chantées par Eddy Siritonga. Bonne écoute. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta dans la rubrique Magazine Musical qui présente les chansons de la province de Riau et nous allons vous présenter deux chansons. Ils sont Soleram et Hang Tua. La chanson Soleram est souvent introduite aux enfants, contient aussi quelques conseils. Le premier conseil est que les enfants doivent garder son honneur. Le second conseil est nous ne devrions pas abandonner des anciens amis, comme nous rencontrons nouveau des amis. Et ensuite, le dernier conseil de la chanson Soleram et que nous ne devons jamais oublier le passé. Tandis que la chanson intitulée Hang Tua raconte de Hang Tua, un marin et célèbre amiral à l'époque du sultanat de Malacca. Hang Tua est décrit comme un chevalier consacré au pays et les gens, bien qu'il soit amiral et qu'il ait un grand mérite pour son peuple. Hang Tua reste humble et obéit à la adoration de Dieu Tout-Puissant. Bon, Jérémy, écoutons maintenant les deux dernières chansons intitulées Soleram, chantée par Deloitte, et Hang Tua, chantée par Yet Bustami. Merci à tous et au revoir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Jangan melayu, buat.
Vous avez écouté tout à l'heure des chansons en provenance des îles de Riau. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.